Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au merveilleux théâtre de l'Alliance française. Pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec les canards à l'orange de la critique, j'ai nommé Armel Héliot du Figaro, Fabienne Pascoe de Télérama, Jacques Nerson de l'Obs, Vincent Josse de France Inter, le grand atelier que j'espère vous suivez comme moi le dimanche de 15h à 17h. On parle ce soir de Fellini, de Simon Stone, de Leila Slimani, d'une dégustation de vin, d'un canard à l'orange, mais également de Victoria Thieret-Chaplin et de la mort d'Agrippine de Cyrano de Bergerac, l'auteur, pas le personnage de Rostand dans le courrier de la semaine. Pierre Cusor a vu Fanny Alexandre au Français et il jubile, quel bonheur de voir les plus grands comédiens de la Comédie française réunis pour cette mise en abîme sur l'amour du théâtre. Mais, comme pour Jacques Nerson, il y a un bémol, hélas. Fanny et Alexandre ont dans le film 10 et 12 ans et ce sont réellement des enfants. Ici, les rôles sont tenus par des adultes jeunes, donc tous les rapports de pouvoir, de sadisme, d'humiliation, de résistance ne fonctionnent plus. À l'inverse, Gérard Levoyer s'étonne d'entendre Jacques Nerson s'offusquer de l'âge des comédiens dans Fanny et Alexandre. Ou de Lambert Wilson dans Le Misanthrope, Nerson en serait-il resté au théâtre aristotélicien et serait-il passé à côté de la distanciation brechtienne sans même lire Le Paradoxe du comédien ? Faut-il préciser à Monsieur Nerson que les comédiens qui ont joué Victor ou les enfants au pouvoir de Michel Deray à Claude Rich n'avaient pas 9 ans ? À propos du Misanthrope au théâtre libre, Cédric Le Pénrug est un fidèle du masque et est halluciné d'entendre deux critiques de l'émission refuser le côté colérique d'Alceste. C'est un atrabilaire, un quasi-anarchiste de l'époque. Lambert Wilson est génial. Pour Delphine Maux, Molière n'a pas fait d'Alceste un révolté, comme a pu le dire votre critique. Au contraire, Molière le condamne et en fait la cible de sa satire, car il incarne l'excès, la démesure, contraire à l'idéal classique. De son côté, Philippe Chavernac a trouvé le malade imaginaire, contrairement à Fabienne, au Théâtre de Paris, avec Daniel Auteuil jubilatoire. Daniel Auteuil garde une jeunesse intérieure et sa fille, Aurore, qui est excellente. Je ne comprends pas Fabienne Pascoe. Notre confrère de la Provence, Jean-Rémy Barlan, souscrit au conseil d'Armel Héliot, la duchesse d'Amalfi de Webster, mise en scène par Guillaume Sévrac-Schmitz. J'ai vu la pièce, dit Jean-Rémy Barlan, au Jeu de Paume à Aix-en-Provence. C'est une splendeur et un spectacle hors norme, génialissime. Et Christine Strobel de Narbonne a suivi aussi le conseil d'Armel et est allée voir la Duchesse d'Amalfi. Quel plaisir, quel bonheur. Mise en scène et comédien époustouflant de bout en bout. Soyez-en ici mille fois remerciés, Armel Héliot, car ce n'est qu'après avoir entendu vos recommandations que j'ai pris nos billets. Nous vous devons donc d'avoir passé une soirée formidable. Et je crois d'ailleurs que ça tourne maintenant à nouveau, non ?
Ben, c'est-à-dire, vous vous souvenez, vous m'aviez taquiné en disant « mais vous parlez d'un spectacle
qui se joue
trois fois ». Et j'avais été prétentieuse, comme je suis souvent, en disant « mais puisque j'en parle, ça va être repris ». Et je pensais « puisque j'en parle au masque et la plume », bien entendu, parce que nous avons une grosse influence. Et c'est vrai, puisque plusieurs théâtres parisiens les ont contactés pour la rentrée prochaine.
En tout cas, voilà, donc enthousiasme aussi bien
ouais,
Aix-en-Provence qu'à Narbonne. Et puis pour finir, Stéphane Héliot, mais c'est votre famille, Armel, ça ou pas, Stéphane Héliot ? Comment ça
peut-être ? Je ne connais pas tous mes cousins, mes petits-cousins, mes arrière-petits-cousins.
Il y a beaucoup d'Héliot ?
Oui, beaucoup. Il y en a même qui ont été rachetés par les Mormons, vous savez. Il y a des cimetières entiers d'Héliod en Bourgogne, c'est un nom bourguignon, qui ont été rachetés par les Mormons. Alors maintenant, nous sommes tous un peu Mormons.
Bon, alors Stéphane Héliod, je ne sais pas s'il est Mormon, mais en tout cas, il nous écrit « Cher masque, chère plume, pourriez-vous, j'aime bien d'ailleurs l'idée, s'il vous plaît, user de votre influence, dont parlait Armel, considérable, sur les scènes françaises pour faire interdire les panneaux verts lumineux indiquant la sortie dans les salles de cinéma et de théâtre. Ils sont allumés en permanence et on ne voit que lorsque le metteur en scène ou le réalisateur voudrait nous plonger dans l'obscurité. On gâte ainsi tous les spectacles, j'ignore. » Par quel tour de passe-passe Bartabas est parvenu à prémunir ses Zingaros de ses furoncles lumineux. En tout cas, les autres salles feraient bien de s'en inspirer. Ah oui, il y en a aussi au Théâtre de l'Alliance
française. Ah oui, c'est les sorties de secours, hein, ouais. Les normes de
sécurité.
Oui, ça,
on a compris que c'était les sorties de secours, c'est pas... Oui, c'est pas les sorties d'entrée. Voilà. Ben, en tout cas, Stéphane Héliod, le Mormon Stéphane Héliod, propose qu'on arrête et qu'on éteigne tous ces furoncles verts. Allez, on commence avec la trilogie de la vengeance qui porte très bien son titre. Vous avez le droit en effet d'envoyer ceux dont vous voulez vous venger à la dépendance de l'Odéon, c'est-à-dire les ateliers Berthier, pour voir le spectacle de l'Australien Simon Stone. C'est jusqu'au 21 avril, il dure près de 4 heures. Il se déroule dans 3 salles où sont successivement convoqués les publics A, B et C. Et les réunit notamment Adèle Exarchopoulos, Valeria Bruni-Tedeschi, Servane Ducor, Nathalie Richard, etc. Et puis un homme, un seul, c'est Eric Caravaca. La trilogie de la violence est ici élisabéthaine, puisqu'elle convoque Shakespeare, Thomas Middleton et John Ford, pas le cinéaste, bien sûr, le dramaturge. Et puis il y a un peu de Lope de Vega, comme ça, dans les coins. Les trois ayant, dixit Simon Stone, inventé une manière nouvelle de représenter la violence, violence faite aux femmes, ou quand, pour se venger, elles ne deviennent pas criminelles. Ce qu'on pourrait résumer avec ce mot de Nathalie Richard à Eric Caravaca, « Te faire du mal va peut-être me faire du bien ». Donc voilà, une compile très déambulatoire. Il y a un resto chinois, il y a une chambre d'hôtel et il y a un bureau un peu indéterminé qui surfe évidemment sur l'actualité MeToo. Le procédé, l'image sont intéressants, mais le propos m'a paru d'une banalité assez effrayante. Vous me dites ce que vous en pensez, Fabienne ?
Ah, moi, j'ai trouvé ça d'une prétention et d'une vanité excessive parce que Simon Stone, on a vu plusieurs fois ses spectacles, il y en avait qui étaient remarquables. Il prétend réécrire les classiques à la sauce d'aujourd'hui, façon série télé ou téléfilm branché. Alors parfois ça marche très très bien, il y a eu une Médée que j'avais trouvée très passionnante, il y a eu des Tchekhov, il y a eu Ibsen. Mais là, il s'attaque donc à 4 élisabéthains.
À 3.
Trois, oui, trois Anglais et un Espagnol qui vivaient à la même époque.
Je ne crois pas que Lope de Vega soit élisabéthain.
Lope de Vega. Et il en fait, tout en prétendant défendre la violence faite aux femmes, en fait, il instrumentalise les femmes et il s'en sert une fois de plus. Alors, tout ça pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il y a 3 lieux. Les comédiens courent d'un lieu à l'autre pour montrer, ils appartiennent à 3 séquences. Enfin, le spectateur peut voir
aussi court d'un lieu à l'autre.
Hein. Court d'un lieu à l'autre, mais enfin, il y a 30 et interminables minutes d'entracte. Hein. Et donc, le spectateur va d'un lieu à l'autre, les comédiens s'exaspèrent, se fatiguent pour pas grand-chose. Le texte, cette fois, est d'une nullité, mais vraiment, c'est rien. Alors certes, c'est une histoire d'inceste, il y a une histoire d'homosexualité, il y a une histoire d'adultère, tout ça est piquant, plein de sexe, de fureur et d'interdits et de tabous, mais finalement, pour pas grand-chose.
Pas grand-chose. Il y a un côté un peu catalogue de la Redoute, je trouve. Jacques ?
Ce procédé de jouer plusieurs spectacles, plusieurs histoires en même temps dans des lieux différents avait été expérimenté de façon beaucoup plus intéressante par Jérôme Deschamps dans Lapin Chasseur, où on voyait
C'était il y a longtemps. Hein.
C'était il y a longtemps.
89.
Oui, mais donc ça prouve que ça n'est pas neuf, justement. Et là, nous avons donc 3 salles pour raconter la même histoire de façon aléatoire. Mais est-ce que, si cette histoire n'a aucun intérêt, le fait que ce soit découpé en trois lieux différents n'a aucun intérêt non plus. Et effectivement, là, je crois que cette trilogie est une tragédie de l'écriture collective. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable de se recommander d'auteurs aussi intéressants que Shakespeare, que Middleton, que Ford, etc., et pour aboutir à une œuvre aussi banale, aussi plate d'écriture et de pensée, c'est stupéfiant d'arriver à un résultat aussi médiocre.
Les acteurs Armel. Mais oui, moi j'étais consternée en sortant de ce spectacle.
Vous n'avez pas passé une bonne soirée ?
Non, mais consternée parce que j'étais triste pour les comédiens, qui sont tous d'excellents comédiens, mais qui n'ont mauvais, que là, des textes médiocres à dire. C'est plus bas que la plus basse des télévisions. C'est un niveau d'écriture nul.
Sur la télévision, il n'y a pas tellement de hiérarchie.
Si. Bah, de temps en temps, on voit de très belles choses, et puis il y a une espèce d'écriture comme ça relâchée. Je ne comprends pas. Le spectacle a pris quasiment 15 jours de retard parce que ce génie de Simon Stone n'arrivait pas à mettre au point ses petits déplacements. Depuis qu'on a vu le spectacle, une des comédiennes s'est cassée la cheville, parce qu'évidemment, ils sont obligés de courir n'importe comment d'un lieu à l'autre sans que ça ait le moindre sens. Le soir où j'y étais, à la fin, ils se trompaient.
Il y a des gens qui se cassent la cheville sans qu'il y ait trois lieux différents.
Oui, mais enfin, quand même, elle s'est cassée la gueule parce qu'il fallait qu'elle court. Non, alors, je mentirais si je ne disais pas que j'ai entendu l'autre jour sur une chaîne que nous connaissons bien, qui est France Inter, Valeria Bruni-Tedeschi dire que Simon Stone était un génie. Alors, je pense qu'elle a une générosité italienne qui la dépasse. Non, parce que les répétitions étaient épouvantables. Les répétitions étaient épouvantables. Ils ont tous beaucoup souffert. Et je trouve que ça se voit. Et puis, qui d'entre nous serait capable de raconter l'histoire ? Personne.
Non, on a des petits bouts. C'est pour ça que j'ai fait un résumé rapide.
Ça n'a aucun intérêt.
Vincent Josse de France Inter, qu'est-ce qu'il en pense ?
Je trouve sévère.
Ah voilà. Bah,
évidemment, il a fait un grand atelier avec Valéria.
Non, mais j'étais sûr que tu allais me dire ça. Tu sais que je peux quand même avoir un esprit critique, même quand j'interviewe les.
Mais il faut qu'on s'engueule.
Les acteurs. Tu veux qu'on se dispute ? C'est inadmissible ce que tu viens de dire, Armel. Non, j'ai commencé par très mal prendre ce spectacle parce qu'effectivement, j'étais saisi par la platitude de l'écriture et puis finalement, c'est une expérience. Les expériences, on les accepte à Avignon. Peut-être qu'elles sont plus difficiles l'hiver à Paris. C'est vrai que c'était prouvant, pas loin de 4 heures.
D'abord, c'est plus l'hiver et puis c'est 4 heures quand même.
À l'époque où on l'a vu, c'était encore
qu'est-ce
un peu
qu'on raconte ? Qu'est-ce qu'on
mais
raconte ?
C'est près de 4 heures. On raconte quelque chose qu'on n'a pas encore traité au théâtre.
Trop de fois à l'inceste.
Non, pas l'inceste. Il est dit beaucoup de choses de notre période MeToo que le cinéma est peut-être déjà en train de traiter. Mais bien sûr, oui, cette violence faite en permanence aux femmes, moi, m'a touché et
elle
j'ai été
depuis des millénaires.
Très impressionné.
On va voir les films de Xavier Legrand, mais là, il n'y a pas photo entre.
Il y en a un de Xavier Legrand pour l'instant. Au théâtre, il n'y en avait pas.
C'est en la montrant qu'on la combat.
Il sait faire jouer des actrices sur cette situation post-MeToo, sur ces violences, sur ces mères
la montre sans
qui souffrent, sur ces enfants qu'on prostitue. Et on a des moments de théâtre que je trouve assez remarquable, justement, sur le plan du jeu. Ayez Aïdara, Adèle Exarchopoulos, on les connaissait pas bien au théâtre. Moi, je les avais jamais vues. J'ai trouvé qu'elles avaient une présence de folie. Ça me hante encore, moi. Certaines de leurs scènes me hantent encore. Mais justement, quand Adèle, alors moi j'ai vu Adèle jouer, je l'appelle Adèle parce que j'arrive pas à dire son nom, Exarchopoulos.
Mais moi je me souviens qu'elle
quand je l'ai vu jouer cette jeune fille prostituée, parce qu'elle jouait autre chose, puisqu'elle joue 6 rôles, 6 personnages dans la
et
même
pour
pièce.
Pour nous inciter à y aller 3 fois.
Alors peut-être que j'avais même envie d'y retourner. Après je me suis dit non, c'est peut-être quand même beaucoup 4 heures, mais pour voir d'autres actrices jouer aussi brillamment ces scènes.
Enfin, on peut
sur le plan du théâtre, c'est très intéressant. Sur le plan du jeu, c'est très intéressant. Après, je reconnais que le texte n'est pas à la hauteur. Il leur a donné à la toute dernière minute. C'est bien pour ça qu'ils ont repoussé la première.
Si le texte n'est pas à la hauteur, l'histoire n'est donc pas à la hauteur.
Non, parce
que c'est un spectacle stupide.
Il n'y a aucune stupidité. Il y a peut-être un peu de prétention, mais pas de stupidité. Et puis, il y a un jeu. Et si on aime les acteurs et les actrices, ils comprennent
Bruni Tedeschi. On leur souhaite de jouer dans de
même. On est saisi par leur jeu.
Ils sont formidables, ils ont souffert et ça se voit.
Si on aime les spectateurs, peut-être qu'on peut leur dire réfléchissez avant d'aller voir la trilogie de la vengeance. Aux ateliers Berthier, dans la série Le théâtre fait son cinéma. Et après toutes ces adaptations sur scène des films de Bergman, de Fellini, de Cassavetes, de Lars von Trier, Voici au Vieux Colombier le voyage de Mastorna d'après Fellini, mise en scène par Marie Raymond. Et là, ça se joue jusqu'au 5 mai. Seule différence notable, contrairement aux années, à la règle du jeu, à Opening Night ou à Fanny Alexandre, toujours à l'affiche du français. Ce voyage de Mastorna n'a jamais été tourné. C'est un projet qu'avait Fellini en 1966, juste après 8 et demi, et que, frappé à la fois par la dépression, puis un conflit avec son producteur Dino De Laurentiis, il n'a pas réalisé. Alors, il reste une poignée d'essais hein, qui ont été tournés avec Mastroianni, et puis un synopsis, signé quand même Dino Buzzati et Brunello Rondi, qui raconte la mort dans un accident d'avion du célèbre violoncelliste Giuseppe Mastorna, d'où le titre double évident de Fellini, qui commence alors un voyage dans l'au-delà. Et c'est présenté donc dans un dispositif bifrontal, auquel d'ailleurs le Vieux Colombier est assez coutumier, par Marie Raymond avec la troupe du français, Serge Bagdasarian, Jennifer Decker, Johan Gazurowski, Laurent Lafitte, Alain Langlais, Nicolas Lormeau et Georgia Scialette. Sachez, pour ceux que ça intéresserait, que le texte a paru il y a quelques années d'ailleurs chez Sonatine, ce texte de Fellini. Vincent,
c'est charmant, c'est vraiment une soirée charmante avec pas de prétention justement. Parler de la
charmant,
prétention. Oui, j'ai trouvé
sinistre.
Que tu trouves ça sinistre.
C'est une histoire de
mort. Qu'est-ce qui t'arrive
et
en ce moment, Fabienne?
Non, mais elle a raison, non, Fabienne.
Ce qui est charmant,
c'est noir.
C'est le travail
de. Il est bizarre, Vincent,
c'est la théâtralité de Marie Raymond. Ce qu'elle a réussi à faire à partir de choses vraiment cinématographiques et littéraires finalement, qui sont ce scénario. Il y a aussi cette BD, par exemple, inspirée du scénario que Fellini avait accepté. Il y a aussi, tu le disais à l'instant, des moments de cinéma qui ont été filmés. Elle réussit à en faire du théâtre, et c'est vraiment une réussite sur ce plan-là, parce que c'est mené par un Fellini joué par le brillant Bagdasarian, qui trouve enfin un premier rôle à la Comédie française, et je trouve ça très heureux pour lui.
C'est pas la première fois, c'est pas la première.
Ah oui, mais ouais,
c'est souvent pas son meilleur rôle.
C'est un grand acteur.
C'est un Marel qu'autre chose.
Il erre dans ce personnage de Fellini.
Parce qu'on est en train de filmer avec trois bouts de ficelle, et moi j'ai découvert que Fellini n'avait pas beaucoup de moyens, j'ai découvert qu'il pouvait faire un travail très artisanal et qu'il aimait cette façon de travailler avec une grande fidélité à là un technicien,
mais là,
une assistante.
Artisanal, c'est simplement qu'il fait des essais. Pardon, mais excuse-moi, tu fais un contresens.
Il y a du charme.
Il manque pas de moyens. Quand il tourne les films de Fellini, en général, ne manque pas de moyens. Simplement, on le voit là faire des essais avec une petite caméra parce qu'il veut juste voir ce que ça peut donner.
Donc, oui, mais avoir aussi son producteur célèbre au téléphone, lui dire qu'il n'aura pas l'argent qu'il faut.
Tu as vu tous les lieux qu'il demande, il veut aller tourner dans le monde.
Il est complètement mégalomane. Je trouve que le portrait de Fellini est assez passionnant.
Je ne suis pas sûr que ça aurait fait d'ailleurs un grand film de Fellini.
Oh non.
Mais bon.
Heureusement qu'il ne l'a pas tourné.
Mais en tout cas, il se passe quelque chose sur la scène du Vieux Colombier.
Moi, j'avais lu ce texte qui a été publié par Aldo Tassone, qui est un de nos amis italiens très actifs et très ami, surtout de Fellini,
grand
qui va d'ailleurs sortir, parce que ça va être le centenaire de Fellini. Il va sortir un livre sur tous les films, ça va être passionnant. Et lui,
c'est le Michel Simon italien.
Voilà. Et il avait à l'époque une formule que j'aime beaucoup. Il disait, c'est un film de conscience-fiction dont avait rêvé Fellini. Et évidemment, un film de conscience-fiction,
ça veut
c'est
dire
un
quoi
petit peu. Ben, c'est-à-dire que une fois qu'il est mort, notre héros Mastorna, que l'avion s'est cassé la figure et que avec son violoncelle, il est dans un autre monde, il est comme Dante aux enfers. C'est vrai que les rencontres qu'il fait ou les retrouvailles avec les gens qui étaient proches de lui.
Il y a des accents de Divine Comédie. Hein.
Ouais, complètement. Et Tassone, et il parlait aussi de la Divine Comédie, il parlait de Dante. Alors ça, c'est très intéressant. Sauf que Marie Raymond, je suis désolée parce qu'on l'aime beaucoup, elle échoue complètement à donner le sentiment de ça. Alors, ce sont comme d'habitude de très bons acteurs. Moi, j'adore Bagdasarian. Et là, ce qui est joli, c'est que vous vous en souvenez certainement, Fellini, il avait une toute petite voix un peu aigrelette. Et Bagdasarian, il a une petite voix comme ça, un petit peu frêle et un petit peu aiguë, une voix d'enfant. Une voix qui n'aurait pas mué. Et Fellini avait cette voix-là. Alors ça, c'est très touchant. Il y a beaucoup de choses, parce qu'on se dit, ben oui, c'est comme ça, il bricolait, il cherchait. Mais le spectacle ne prend pas.
Fabienne.
Ah, moi, je trouve que c'est une catastrophe. La Marie Raymond, elle s'est accrochée à quelque chose qui est trop fort pour elle. C'est aussi, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais ça marche quand elle parle d'Agassi, quand elle parle de Barbara Loden ou encore de Bob Dylan avec très peu d'acteurs. Mais là, plus d'une dizaine d'acteurs, elle contrôle rien. Le propos, alors ça doit être à base d'improvisation et d'écriture de plateau, comme on dit aujourd'hui, mais ça donne une impression confuse. Moi, j'ai trouvé, moi qui aime tant la troupe de la Comédie Française, j'ai trouvé qu'ils étaient tous mauvais, oui. Qu'ils erraient dans leurs personnages, qu'ils ne savaient pas bien quoi faire. On ne sait pas si Mastorna...
Pardon ? C'est le propos, Fellini ne sait pas exactement ce qu'il est en train de tourner. Personne ne comprend.
Quelque chose qui est flou. Fellini n'en a pas fait un film, pourquoi ça ferait une bonne pièce ?
C'est pas parce que tu racontes un ratage que tu dois toi-même rater ton spectacle.
Mais il n'est pas raté, c'est l'histoire d'un ratage.
Ah bah oui, mais alors faut être très fort pour monter l'histoire d'un ratage et que ça soit intéressant. C'est pas encore le cas de Marie Raymond.
Toute la première partie est très réussie. C'est après qu'elle se perd.
Je partage l'avis de Fabienne. Je crois que c'est surtout très difficile de raconter les rêves de façon générale, de transmettre les rêves, c'est très difficile. Mais en plus, raconter les rêves d'un autre, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire, on voit bien que là, Fellini est encore dans le climat de Juliette des Esprits. D'ailleurs, il y a la même dénonciation, d'ailleurs, des mages. Enfin bon, il y a beaucoup de choses en commun entre le film et ce scénario-là. Mais c'est pas maîtrisé déjà par Fellini et ce n'est pas du tout maîtrisé non plus par Marie Raymond qui effectivement elle essaie de nous raconter pourquoi Fellini n'a pas réussi à tourner ce film. Elle le voudrait, mais elle ne l'explique absolument pas.
C'est
tout à fait ce qu'elle veut. Une manière de faire la maligne aussi en prenant à chaque fois des sujets impossibles.
Le voyage de Mastorna, ça se joue au Vieux Colombier jusqu'au 5 mai d'après Fellini. Autre adaptation, tout le monde ou presque a lu Chanson douce, le deuxième roman de Leïla Slimani qui a reçu le prix Goncourt en 2016 et qui s'ouvre, vous vous souvenez du livre, par l'épilogue tout à fait horrifique puisqu'une mère qui a repris d'ailleurs son activité professionnelle dans un cabinet d'avocats découvre ses deux enfants, Mila et Adam, sauvagement assassinés par leur adorable nounou, Louise. La suite du livre qui raconte évidemment comment s'est constituée dans une famille de bobos parisiens l'archéologie de ce crime. Pauline Bell, qui avait porté à la scène déjà l'Iliade et l'Odyssée, en propose au studio de la Comédie Française une adaptation avec Sébastien Poudrou et Anna Servinka qui partagent les rôles à la fois des parents et des enfants, et Florence Viala, qui joue donc Louise, qui est un alliage, selon Pauline Bell, de la Félicité d'un cœur simple et de la Médée d'Euripide. Et ça se joue jusqu'au 28 avril. Jacques ?
Mais écoutez, j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Je n'avais pas lu le roman.
Vous n'avez pas lu le roman ?
Non, je ne l'ai pas lu. Je m'en excuse, mais enfin bon.
Je ne vais pas vous en excuser.
Et j'ai pris un énorme plaisir à ce spectacle, que j'ai trouvé extrêmement émouvant, grâce beaucoup aussi aux comédiens, pas seulement à l'écriture, mais à la direction d'acteur de Pauline Bell, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant. J'avais beaucoup aimé son Iliade. Et là, alors c'est drôle parce qu'on parlait de l'âge des enfants, on m'a reproché de ma critique pour Fanny et Alexandre. Là, bien là aussi,
mais
il y a
les
des
parents
enfants.
Sont aussi enfants, donc c'est plus,
voilà,
c'est-à-dire
que la solution que trouve Pauline Bell, c'est non pas de les faire incarner, mais de les le faire suggérer par les comédiens. Et c'est beaucoup plus fort, évidemment, ça marche très bien. L'âge, ici, n'est pas du tout un problème. Et les comédiens sont remarquables. Elle a très peu de moyens.
Sauf que je trouve que la nounou est moins perverse sur la scène que dans le livre.
Alors, je ne peux pas faire la comparaison, mais je l'ai trouvée suffisamment perverse comme ça. Elle est vraiment, d'ailleurs, assez éblouissante, parce que elle est tellement émouvante
c'est
au début,
Viala,
tellement...
Hein.
Enfin, tellement naïve, elle est d'une bonté éperdue, et puis petit à petit, son glissement dans la folie va se faire devant nous. On le voit doucement venir. C'est remarquable, ça fait froid dans le dos, c'est un très beau spectacle.
Fabienne ?
Moi, je suis moins enthousiaste que Jacques parce que je suis pas très très fan du roman, que je trouvais un peu du sous-Genet, les bonnes et tout ça. Enfin bref, un roman sous influence qui ne m'avait pas, que j'avais trouvé relativement banal dans le sujet, bien écrit, mais enfin bref. Là, je trouve que l'adaptation de Pauline Bell, elle est platounette. Alors, un roman platounet, adaptation platounette, où va-t-on ? Donc, je suis restée... cette multiplication, jouer à trois, sept personnages, c'est vrai que c'est virtuose. Ah bah mais
ça fonctionne très bien.
Ben, pour moi, ça n'a pas complètement fonctionné, le fait que tout ça se mélange. Je sauverais l'interprétation de Florence Viala, qui, c'est vrai, est tellement banale, quotidienne, ordinaire, froide, qu'elle nous fait sentir que la monstruosité, on l'a vraiment... en chacun de nous et que on peut tuer, on pourrait massacrer ses enfants.
Quoi?
On peut... pourquoi pas? C'est c'est une femme comme tout le monde et c'est ça qui est effrayant. C'est que le meurtre, la violence, le crime, c'est là, c'est à portée de main. Hein. Il suffit de prendre un couteau.
Hein. Oh là, vous me faites peur là.
Ah oui, il suffit de prendre un couteau.
Et ben moi, elle m'a fait peur comme ça, Florence Viala, et j'ai trouvé ça bien.
Mais moi, j'ai pas eu peur, Armel.
Moi, je n'avais pas été émue par le livre. Je l'avais trouvé un petit peu.
Vous avez des cœurs de
fabriqué.
Pierre,
hein. Mais non,
il est un peu
le livre, vous ne l'avez pas lu.
D'accord avec Armel.
Un petit peu, formaté.
La structure était très originale, en tout cas.
Et moi, j'ai été très, très gênée par le fait, justement, que les enfants et les parents soient joués par les deux mêmes acteurs, soient intervertis, en plus, la femme joue l'homme, l'homme joue la femme. J'ai trouvé que c'était une coquetterie bien inutile. Dans une maison comme le Français, on peut avoir tous les interprètes qu'on veut. C'est une espèce de...
Non, on ne peut pas avoir d'enfants, on l'a vu pour Fanny.
Non, mais... on peut avoir tous les interprètes qu'on veut, on peut avoir plus que deux interprètes pour faire les autres personnages. Moi, je suis restée très à l'extérieur.
Avec l'Iliade et l'Odyssée.
Oui, exactement. Aussi. Je suis restée très à l'extérieur, j'admire le travail des acteurs, mais je n'ai pas été émue.
Et Vincent ?
Je suis surpris par l'émotion de Jacques, c'est un mot que tu as employé, je trouve qu'il n'y en a aucune, qu'on reste extrêmement... éloigné de la scène et du propos.
Glacé quand même.
Oui, parce que Florence est remarquable.
Je trouve pas non. Oui, mais sans être la...
Non, elle a pas de perversité, elle est pas angoissante en même temps.
Bah oui, mais
c'est ça le personnage. Oui,
mais ça, c'est l'adaptation.
Dans le livre, c'est ce qui était très réussi, c'est qu'elle
a quand même une violence évidente. Tu le disais, Fabienne, on peut tous devenir un monstre.
Oh non.
Si, je pense qu'il y a ça. Je suis d'accord avec Fabienne, mais en revanche, elle n'est pas montrée sur scène. Elle ne passe pas. Moi, je voyais un couple dans un salon. Habitat assez chic, mais je me meuble là-bas.
Ah bon?
Mais on n'a pas le droit de faire de pub, tu sais, dans le service public.
Oui, bah c'est fait.
Ikea, si tu veux, Habitat, bon.
Mais je suis vraiment... Tu touches à tous les ateliers, toi.
Et Monsieur fidèle. Meuble et Confora.
Monsieur Meuble aussi, quand j'étais jeune, à Abbeville, dans la Somme, il y avait Monsieur Meuble.
J'aime bien Maison du Monde aussi.
Oui. Mais en revanche, j'aime pas beaucoup Chansons douces au théâtre. Je m'attendais à plus de force, plus de violence.
Le type qui a défendu la trilogie de la vengeance et qui
ah oui, c'est beaucoup plus intéressant la trilogie de la vengeance.
Pas.
Bien sûr, il se passe beaucoup plus de choses qui vous restent en plus ensuite dans la tête. Et puis Florence Viala, moi je trouve qu'on lui demande de jouer très comédie française. Chacun est face au public très régulièrement, c'est très statique, il se passe pas beaucoup de choses. Moi le fait de jouer plusieurs rôles ne m'a pas intéressé, il m'a plutôt perdu justement. J'ai hâte de voir la version cinéma, il va y avoir Chansons douces au cinéma en fin d'année avec Karine Viard dans le rôle
après on aura en comédie musicale et en
oui c'est possible
imaginez en
et après en grand guignol
et on lui met une blouse, pourquoi une blouse des temps anciens alors que tout est justement Habitat 2019, j'ai pas compris.
Bien, c'est Chanson douce de Leïla Slimani dans sa version théâtrale au studio de la Comédie française. La dégustation de et mise en scène, qui marche très fort ça, par Yvan Calberac avec en tête d'affiche Isabelle Carré et Bernard Campan. C'est au Théâtre de la Renaissance. Campan, c'est Jacques, divorcé, célibataire, qui tient une petite cave à vin de celle où aime bien aller Jacques, où débarque Hortense. C'est Isabelle Carré, très chic, très engagée dans l'associatif et qui est menacée de finir vieille fille et qui vient s'inscrire à un atelier, donc dégustation de personnages qu'un jeune en liberté conditionnelle, qui est joué par Mounir Amamra, c'est Steve, va tenter et réussir peut-être à rapprocher une comédie romantique pour laquelle Yvan Calberac en appelle dans le programme, rien moins qu'à Lubitsch. Voilà, alors grand cru, petit cru, vous me dites, Vincent.
Oh, c'est un petit cru. Les situations, les personnages, etc. Tout est bien en place pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Mais on a pas mal de stéréotypes dans cette pièce. La petite Cato, un peu coincée au début, qui finalement n'est pas coincée.
Qui ne peut être jouée que par Isabelle Carré.
Oui. Moi, j'aimerais la voir jouer des textes plus importants, plus grands, la voir
ailleurs. Elle le fait souvent.
Bien d'accord avec
toi. De moins en moins. Elle enchaîne un peu des pièces du privé pas passionnantes, mais peut-être qu'il marche bien, hein, je n'en doute pas.
Peut-être qu'on ne lui propose pas autre chose.
Peut-être qu'on ne lui propose pas autre
chose. Ça fait un peu feuilleton télé, je trouve.
Complètement un feuilleton télé, un téléfilm
efficace. Un peu fait passer, c'est pas ça.
De première partie de soirée avec... évidemment, le petit arabe qui va être le petit voleur peut-être, mais qui va quand même se réinsérer. Enfin, il y a un certain nombre de clichés.
Hein.
Et puis pas mal de vulgarité aussi.
Je suis oui, il y a des séquences
mais quand ils vont se mettre à déguster,
terrible.
On a dans la bouche un peu de grossièreté, mais pas
de vulgarité. Dans la bouche d'Isabelle Carré, un petit coup, je dis jamais non. Au premier coup, j'avale. J'ai pas envie de voir Isabelle Carré jouer ça, moi.
Oh, mais moi je croyais que c'était du vin. Moi je croyais qu'elle parlait du vin.
Je m'arrêterai là, Fabienne Pascaud.
Armel.
Oh oui, il y a une accumulation de poncifs.
Il n'y a personne de nu sur la scène.
Non. Il y a une accumulation de poncifs, c'est du mélo fabriqué, quoi. Alors, ce n'est pas déplaisant. On ne va pas injurier le public qui adore ce spectacle. Et spectacle qui actuellement marche le mieux à Paris, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de propositions. Il y a des comédies très,
puis,
très drôles.
La vérité, il y a beaucoup de théâtres, enfin de pièces qui ferment les unes après les autres.
Ouais. Hein. Mais là, on a tout, quoi. On a tout. Alors, il ne faut pas vous raconter la fin, mais enfin...
Ah non, c'est la seule chose.
On a la PMA, on a la réinsertion,
voilà,
la drogue,
un gramme caché.
Les pièces sont, les places sont chères quand même, hein, donc il ne faut pas raconter
mais
la fin.
Ça laisse dans un certain désarroi, parce que là aussi, Calbera, qui, quand il écrivait « Venise n'est pas en Italie », il était inspiré par une histoire qui lui était arrivée, donc il avait un peu plus de verve et d'élan. Là, c'est quand même laborieux, appliqué... Et puis il y a des recettes, quoi. Et ça n'enlève rien au talent des acteurs. Mais moi, je me suis personnellement ennuyée. Mais j'admets que les gens s'amusent, sont touchés, croient à ces histoires, ce côté mélodramatique.
Jacques ?
Mais moi, je trouve que c'est une très jolie comédie sentimentale. Je ne dis pas que c'est le spectacle sur lequel...
C'est parce que vous êtes un peu alcoolo, vous, c'est pour ça. Alors, dès qu'il y a un bar à vin, vous...
C'est sûrement ça.
Ah oui, il y a le libraire alcoolo.
Un bar à vin et une cato, alors là, vous êtes au 7e ciel.
J'étais content qu'on dise du mal du Beaujolais. Et dit non, moi, je vends du vin, je ne vois pas de Beaujolais, c'est très bien. Mais,
dis-moi, c'est une émission spéciale pub, là.
Ouais.
J'aime pas beaucoup le...
Les marques.
Mais bon, à part ça, non, je trouve que c'est une jolie petite comédie sentimentale, bien troussée, les dialogues sont assez bien écrits, c'est efficace, et puis il y a d'excellents acteurs. Je trouve qu'Isabelle Carré est très drôle dans ce rôle d'une femme qu'on prend pour plus nunuche qu'elle n'est et qui révèle qu'elle est plus intéressante que ça. Bernard comprend très bien, et puis je suis très content de la découverte de Mounir Amamra.
Oui, formidable.
Qui est très très bien. Eh ben c'est un comédien que je connaissais pas. Déjà ça me sauverait la soirée de découvrir un nouveau comédien de talent. Donc non, j'ai passé une soirée agréable. J'ai plutôt ri. Le public, alors, est vraiment aux anges. Ils trépignent de joie, ils applaudissent les répliques. J'ai rarement vu ça. J'étais pas tout à fait dans cet état-là, mais j'étais.
Mais pas loin. Mais pas loin.
J'étais très content quand même.
Pas loin.
Voilà. Oui, je suis sorti.
Enfin, Fabienne, je vous ai admiré parce que on peut dire la vérité. Nous étions ensemble à la projection du nouveau film très long de Guillaume Canet, 2h15, 2h20, et vous m'avez dit, je file voir la dégustation. Et donc, je me suis dit, c'est une soirée complète, là.
Oui, c'était la totale. J'ai moins ri qu'au Guillaume Canet.
Oui, mais ça...
mais j'ai ri pour des mauvaises raisons.
Je vous ai entendu rire beaucoup au Guillaume Canet.
Mais là, je suis un peu d'accord avec mon camarade Jacques. C'est une bleuette sentimentale. C'est un spectacle qui aborde, évidemment, de manière un peu opportuniste, tous les problèmes d'aujourd'hui, mais qui en console et qui répare... qui répare les maux dont on parle à longueur de temps et avec une sorte de tendresse, de délicatesse envers les personnages. Et c'est vrai qu'on a un peu besoin de ça aujourd'hui. C'est vrai que le public a aussi besoin de ça. Et je n'ai pas passé une mauvaise soirée. J'ai trouvé que c'était charmant. Ça vole pas haut, mais c'est charmant.
Eh bien, c'est au Théâtre de la Renaissance et c'est la dégustation de Calbérac avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Venons-en maintenant peut-être un des plus vieux succès du boulevard. Je veux parler du Canard à l'Orange de William Douglas Home, pièce de 1967, mise en scène en France en 1979 par Pierre Mondy, ça ne nous rajeunit pas, avec Jean Poiret et Christiane de Minazzoli, et que aujourd'hui à la Michaudière, Nicolas Briançon veut sortir de la naphtaline avec lui-même, évidemment, dans le rôle de Hugh Preston, cet animateur télé couvert de maîtresses qui un soir reproche à sa femme Lise, et c'est Anne Charrier, d'avoir un amant. Elle avoue d'ailleurs sa liaison avec un agent de change qui est joué par François Vincent Elie, avec qui elle s'apprête à partir pour Venise, qui est bien d'ailleurs en Italie. Hein. Et pour ne pas la perdre, il offre à Alice de se faire prendre en flagrant délit d'adultère avec sa secrétaire. C'est Alice Dufour, et même il lui propose d'inviter son amant à passer le week-end à la maison. Pièce en forme de jeu d'échecs qui n'a cessé d'avoir un succès absolument phénoménal, avec des répliques pas forcément très bonnes, mais devenues fameuses. Alors dommage qu'on ne puisse pas se faire opérer de la conscience comme de l'appendicite. Là, il faut rire, normalement. Son mari boit tellement qu'elle est devenue alcoolique. Ou ça doit être très humiliant pour une femme d'être mariée à un cocu. Voilà.
Je vois la tête d'Armel.
Oui, mais parce qu'il y a eu plusieurs traductions.
Oui, enfin, en gros, ça veut dire la même chose.
C'est celle-là.
Hein.
Non, non.
Ça, ah non, franchement, c'est
bah là,
chaque...
c'est l'adaptation de Marc-Jim Sauvageon qui était celle de la création. Hein.
Alors Jacques,
Non, ils l'ont remanié complètement.
Vous avez goûté, à ce canard à l'orange ou pas ?
J'ai pas beaucoup aimé. J'ai cherché à comprendre pourquoi, parce que j'avais vu la pièce non pas avec à la création avec Poiret
et Minazzoli,
Michel Roux,
mais je l'ai vu avec effectivement ouais. Michel Roux et j'avais beaucoup ri. Alors ouais. Michel Roux était un acteur qui valait beaucoup mieux que le seulement
faisons l'éloge de Michel
Roux, le fameux doubleur de Tony Curtis.
Soir, on l'a beaucoup vu à la télé,
on l'a vu, etc. Mais c'est un
excellent acteur. Sur scène, il l'avait joué. Ouais.
Un excellent acteur. Et là, ça marche pas. Et à mon avis, si ça marche pas, c'est à cause de Nicolas Briançon qui s'est attribué ce rôle. Et Nicolas Briançon, qui est un acteur qui peut avoir de grandes qualités.
C'est pas un comique, hein.
Voilà. Mais vous l'avez dit, c'est pas un comique. Et il faut un comique dans ce rôle-là, parce que. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un homme essayer de récupérer sa femme qui va partir, qui va le quitter, et il essaie de la récupérer en ridiculisant sans arrêt l'amant, enfin le type avec qui elle va partir. Mais simplement, si c'est fait avec une certaine méchanceté, c'est odieux. On en vient presque à souffrir au long de la pièce, c'est de voir un homme humilié constamment. Alors Roux arrivait à le faire passer par sa fantaisie, par sa drôlerie. Là, ça passe pas. C'est assez désagréable à voir.
Ça dit, même en imaginant que ça peut être drôle, on comprend, je veux dire, le succès éternel de La Cage aux Folles. Là, on comprend pas très bien ce qui fait que cette pièce a toujours rencontré quand même un succès.
Les gens riaient quand même le soir où j'y étais.
Alors, Fabienne.
Moi, je n'ai pas ri du tout parce que je ne peux plus supporter ces comédies de boulevard avec ces rôles féminins où les femmes sont vraiment même pas des potiches, des faire-valoir, des pauvres-filles, ou alors, non, c'est pas possible. Là, je veux pas jouer ma féministe de base, mais franchement, là, non. Je préfère de loin La Dégustation, au moins Isabelle Carré a un rôle intéressant d'aujourd'hui. Là, Les Créatures de William Douglas Home, c'est juste pas possible de voir ça aujourd'hui, ces femmes qui se font dominer par les hommes, qui les traite comme des chiens, qui les trompe, et qui s'en moque en plus, et qui les humilie. Moi, je trouve qu'il humilie beaucoup plus sa femme que l'amant de sa femme.
Autant peut-être.
Sa secrétaire qui est devenue sa prostituée, avec la gouvernante qui est là, qui est aussi une caricature de vieille femme acide. Non, ça suffit aussi, ça.
Armel.
Bon, moi, je ris. J'ai passé une très bonne soirée.
Oh, Armel.
Moi, je suis pas aussi intellectuelle.
Mais de quoi vous
Fabienne.
Avez pu rire?
Mais parce que
c'est forcé.
Moi, j'aime beaucoup
tout
cette pièce. J'aime beaucoup son auteur. J'ai beaucoup d'admiration pour William Douglas Home, qui était un héros de la guerre et qui a refusé.
C'est bonne, Armel.
Si, tout ça compte. Et c'était un monsieur qui a refusé de bombarder Le Havre,
mais pas quand on n'a pas lu.
Mais à la place, il bombarde les spectateurs, donc je veux dire que c'est pas.
Il est devenu
c'est
un
pas un argument.
Il nous bombarde les plus rigolos, les plus
reconnaissants.
C'est plein de. Mais non, mais ça vient pas de n'importe où, quoi. C'est pas écrit
non, ça vient
par
de là-haut.
un monsieur vulgaire et sans élégance. Au
c'est
contraire.
La pièce c'est vulgaire.
Parce que vulgaire. Les traductions successives abîment les.
Ça dit, j'adore
les traductions qui abîment tout. Et c'est la manière de jouer, effectivement. Moi, je n'arrive pas à oublier Michel Roux. J'avais une adoration pour ce monsieur. Et dans ce rôle-là en particulier, il était.
Adoration, c'est un peu excessif quand même.
Parce qu'il avait beaucoup d'élégance
si,
et de place.
Pas voilà,
pas manière. Non plus,
parce que
ah
il
si,
était...
il avait un espèce d'humour classique.
En même temps, il était moins bien vu que justement un Jean Poiret. Il n'était pas. C'était un vrai acteur de boulevard, un vrai acteur comme de.
Mais pour vous, Armel, la pièce, elle tient encore en 2019.
Elle tient. Oui, si on est de bonne humeur, elle tient.
Si on est de mauvaise humeur.
Si vous sortez de Simon Stone, vous êtes content de voir le canard à l'orange. C'est vrai, c'est quand même la vérité de notre métier.
Ah non, c'est pas la vérité.
Il y a des soirs où on accepte plus ou moins bien les choses.
Oui, non, mais c'est
moi,
un argument.
Moi, je l'ai très bien pris. Bon. Je vais pas chercher la manière dont sont traitées les femmes et tout ça.
Oh, mais Armel, alors c'est pas bien.
Et puis,
quand même notre conscience.
Non,
notre conscience
pas
féminine
sur ces
avec nous.
Là, mais pas sur ces pièces-là. C'est fait pour se distraire, c'est fait pour.
Oh, moi, je peux pas me distraire.
Après,
avec
on peut dire
pareil.
Que. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je trouve qu'ils boivent beaucoup trop. Ils n'arrêtent pas de boire.
Ça, c'est une réflexion intéressante.
C'est la pauvre mise en scène
mais
que
ça,
fait
c'est
Nicolas
dangereux quand même.
Aller chercher une bouteille et se verser un verre.
Oui, voilà.
Voilà, c'est
sans
un geste.
Arrêt.
Bah, ils boivent aussi beaucoup dans la dégustation, par
Vincent,
définition.
Sept oui, mais nominations c'est, pour Molière.
C'est... Vincent.
Ouais. Voilà, vous avez
combien dit. Sept nominations
sept.
Pour
sept.
Le canard à l'orange
oui.
Non.
Oui.
Bon, enfin, bon, on sait bien ce que c'est que les Molières.
Oui. Non, on comprend pas pourquoi il monte cette pièce d'une part et pourquoi il la monte dans son jus, quoi. On a l'impression qu'il est très marqué par Pierre Mondy, par Michel Roux, par Jean Poiret, etc. et qu'il ne s'autorise pas autre chose. Même le décor est vieux. Même la façon d'attifer, par exemple, Sophie Arthur, qui est bien, elle, mais c'est extrêmement vieux. On a l'impression qu'il fait cuire ce
parce
canard.
Parce qu'il a fait un peu une parodie.
Même Michel Faux n'a pas voulu du canard à l'orange.
Ah oui, en effet. C'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est plus une mise en scène Raymond Oliver qu'Alain Passard, quoi. On n'est pas du tout. En 2019,
c'est pas gentil pour Raymond Oliver,
c'est un grand
chef.
C'est très étonnant, puis il est pas drôle, Briançon. Il a beau se démener, il est pas drôle, alors qu'il a, on le sait, tu l'as dit, beaucoup de talent par ailleurs.
Le canard à l'orange, c'est donc de William Douglas Home, qui a été donc un héros, et c'est.
Mais oui, ça compte.
La Michedière, la mort d'Agrippine, l'unique tragédie écrite en 1654. Nerson était la création par Savinien de Cyrano de Bergerac, mise en scène au théâtre déjazé par celui que le Figaro appelait la semaine dernière le dinosaure. Daniel Mesguich avec Stéren Guiriec, Jordan Hess, Joël Luthi, Sarah Mesguich, Yann Richard et Rebecca Stella, une pièce sur la conspiration fomentée contre l'empereur Tibère, notamment par Agrippine qui veut venger la mort de son époux Germanicus. Dans la mort d'Agrippine, dit Mesguich, le personnage tragique n'est pas Agrippine, ni Sejanus, ni Tibère, ni Livilla, c'est la croyance du spectateur. Expliquez-moi ça, Jacques, vous l'avez vu ?
Oui, je l'ai vu.
Oh, Jacques, c'est
ah, oui.
Très bien.
Ah, non, c'est pas très bien du tout. Je trouve que il y a quand même quelque chose de rassurant dans un monde très mouvant où tout change, c'est que Daniel Mesguich, lui, il change pas. Il fait le même spectacle depuis 40 ans. Il a mis au point une espèce de vocabulaire. Par exemple, il a décidé qu'il était intéressant de cloner les personnages et de répartir un rôle, le même rôle, entre plusieurs comédiens. Et il fait jouer les comédiens en miroir, probablement sous l'influence des théories de René Girard. Le résultat de tout ça, c'est un spectacle. La pièce est déjà pas très facile à suivre. Elle est intéressante par moments. C'est une pièce athée, ce qui est quand même assez.
D'ailleurs, elle n'est jamais montée.
Assez
extraordinaire. Très rarement montée.
Je l'avais jamais vue. Il y a quelques vers assez étonnants. Mais il la rend totalement incompréhensible. Et alors, c'est assez fascinant.
Les scènes en voix off avant la plupart des grandes scènes.
C'est vrai, mais ça n'empêche que la représentation elle-même est quand même très compliquée, puis sa voix off est assez comique. Mais enfin bon, on retrouve tous les vieux tics de Mesguich, les citations musicales en leitmotiv, etc. C'est la fumée. Alors, il y a plus
y a un
fumée,
fumée
que dans les hauts fourneaux. Enfin bon, c'est absolument incroyable.
Il n'y a pas beaucoup de budget.
Mais c'est-à-dire qu'on a
une
eu...
Pièce
c'était
avec
Vincent.
Rien.
Oui, non, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, je plaisante un peu. J'ai été très fatigué par effectivement la énième mise en scène qu'il monte Shakespeare ou Cyrano de Bergerac. C'est la même chose, la même méthode. On a vu son C'est Hamlet, parce qu'il a monté 2, 3, 4, comme Picasso, mais c'est pas Picasso, pardon. Hein. On s'ennuie moins devant un tableau de Picasso qu'à cette représentation qui, moi, m'a paru 3 fois plus long que Simon Stone.
Ça n'est pas long, pourtant.
Pour moi, c'est 12 heures et pas 1h40, le théâtre.
Non, c'est trop long, pour ce que c'est, oui.
Il oblige ses acteurs à un jeu d'autrefois, alors qu'ils sont sans doute très bien, ces comédiens, Sarah Mesguich en tête, mais c'est suranné au possible, c'est extrêmement daté. On a du coup l'impression que le texte n'est pas intéressant parce qu'on ne comprend pas tout, qu'on se perd, que ça copie un peu Shakespeare, ça a l'air d'être un bon élève, Cyrano de Bergerac, qui copie Shakespeare, qui copie Racine, etc. Donc on est loin de ce qui peut se passer, et surtout très agacé par ces tics célèbres de Mesguich.
Fabienne ?
Moi, j'ai beaucoup aimé le spectacle. En tout cas, je suis reconnaissante à Daniel Mesguich d'avoir été sortir cette mort d'Agrippine, qui est quand même une pièce extraordinaire et visionnaire.
Est-ce que vous savez pourquoi il écrit la mort d'Agrippine en mettant le d'apostrophe?
Il y a le d'apostrophe entre
parenthèses. Oui, mais ça, je m'en fous.
Il a toujours fait ça.
C'est quand même votre rôle d'essayer de savoir.
Oui, mais
vous devriez essayer, puisque vous adorez.
Peu importe. La mort d'Agrippine, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mon metteur en scène adoré, mais c'est quelqu'un dont je respecte le travail. Oui. Et là, j'ai redécouvert grâce à lui cette mort d'Agrippine, unique tragédie de Cyrano, comme on l'a dit.
Il est mort à 35 ans.
Il est mort à 35 ans.
Mais il y a longtemps. Hein.
Qui est une pièce où tout le monde ment, qui est dans l'illusion totale, dans le mensonge total. Eh bien oui, moi je l'ai relu.
Mais moi aussi,
après.
Je l'ai là.
Les Alexandrins de Cyrano de Bergerac sont magnifiques. Et c'est une pièce qui parle, qui fait le...
Mais la mise en scène, le spectacle.
Merci à Daniel Mesguich d'avoir monté, de nous avoir fait entendre ce texte, cette conjuration.
Non, il ne le fait pas entendre, il nous empêche de l'entendre.
Mais si. Au contraire, on a un flot torrentiel de mots qu'on écoute comme de la musique, même si c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément tout.
mais c'est incroyable.
Ça devient un plaisir musical. Mais non, mais le théâtre, c'est ça aussi.
Ah, c'est de la musique.
Et ça, enfin, c'est du théâtre. On a vu des adaptations de romans, des adaptations de scénarios ratés, des comédies de boulevard, et là, c'est une vraie tragédie avec des personnages fous, cinglés, monstrueux, qui ne pensent qu'à s'entre-déchirer.
Mais ça, c'est du théâtre.
Oui, mais ça, c'est dans la pièce, c'est pas sur le plateau.
Mais si, Armelle. C'est sur le plateau.
Moi, je suis plutôt du côté de Fabienne Pascaud. J'étais très intéressée de découvrir cette pièce parce qu'on nous parle de l'écrivain Cyrano de Savinien de Bergerac, mais on le voit très peu. Benjamin Lazare avait monté une adaptation des États de la Lune, et depuis 1960, Antoine Bourseiller l'avait monté, on ne l'avait pas revu. Je crois. Et donc, c'est intéressant quand même d'avoir accès à un ouvrage qu'on ne connaît pas, même s'il est publié effectivement en poche et que donc il est accessible. Mais je crois que c'est grâce à Daniel Mesguich, puisqu'il y a une interview de lui à la fin. Et donc, c'est formidable d'avoir accès.
Si vous avez aimé
et moi, oui. Alors, j'ai retrouvé effectivement sa manière. Depuis 1974 qu'il a signé son premier spectacle alors qu'il était encore au conservatoire, il a toujours fait ça, il a dédoublé, il a été dans l'excès. Et là, il est dans une espèce de baroque barbare avec des costumes. Non.
Adieu.
Non.
Flamboyant, papa.
Non.
L'avant-garde, avant-garde.
Et les trois comédiens principaux, c'est-à-dire Sarah Mesguich, Steren Guiriek, qui fait le rôle d'un homme, et Jordan Hess, sont formidables, sont remarquables. C'est, franchement, en plus, ça dure 1h40. On peut bien consacrer 1h40 à un grand poète français, méconnu, parce que jamais monté.
La mort d'Agrippine, Savinien de Cyrano de Bergerac, monté par Mesguich. Et c'est au théâtre des Jazets, une toute petite poignée de minutes pour un spectacle vraiment tout à fait différent, musical, féerique, signé Victoria Thierry Chaplin, la fille donc de Chaplin, la mère de James Thierry et d'Aurélia Thierry. C'est Bells and Spells à l'atelier. J'ai pas le temps de résumer, de toute façon c'est irrésumable, puisque les porte-manteaux marchent, les robes bougent, les tables s'esquivent, les murs s'ouvrent sur un couple de danseurs. J'ai trouvé ça chaplinesque et Lewis Carolien en diable. Ça dure là 1h10. C'est vraiment relativement rapide. Vous me dites si vous conseillez ou pas, Vincent.
Oui, c'est charmant. Elle est délicieuse.
L'idée, c'est que si tu aimes, tu le dis avec conviction.
Non, mais
si
je
tu
peux
aimes
pas, dire oui ou non. C'est plus.
Ouais,
c'est
on sent que
c'est plus fin que ça, j'espère. C'est que elle est belle. Aurélia Thierry. Mais si, c'est vrai, c'est quelqu'un de gracieux, c'est quelqu'un qui danse, qui sait faire énormément de choses, donc qui nous séduit par sa magie. Mais je trouve que tous ces spectacles de cette famille se répètent beaucoup et qu'on commence à se lasser un peu, moi, de ces répétitions.
Tu dirais ça des spectacles de James Thierry aussi?
Ouais, il m'arrive d'être déçu aussi par James Thierry, mais celui-ci me semble quand même une petite chose et je me suis ennuyé assez vite.
Armel?
Vincent, franchement, Aurélia, elle a dû faire deux ou trois spectacles dans sa vie. Franchement. Et là, il y a du charme, il y a de la grâce, et surtout, évidemment, c'est pour ça que tu l'as cité, c'est le génie de la mère de ces deux enfants que l'on voit une fois de plus, parce que c'est elle qui a écrit, qui a les trouvailles, qui sait transformer les objets, comme elle le fait pour James Thierry très souvent.
Fabienne?
Oui, c'est un moment de grâce et de poésie, sorti du temps. Les costumes, c'est les années folles. C'est l'histoire d'une kleptomane qui pourrait être Zelda Fitzgerald, un peu folle, qui s'empare des objets.
Oui, qui devient le jouet des objets qu'elle
vole,
quoi.
Qui eux-mêmes se vengent. Enfin, il y a des tas d'images qui apparaissent, disparaissent. Il faut se laisser porter par cet univers. Moi, j'y suis rentrée avec plaisir.
Et Jacques?
Non, je suis désolé. Moi, je trouve que le spectacle roule sur trois pattes. Il y a quelque chose qui va pas. Les tableaux s'enchaînent mal. C'est beaucoup plus faible. Je trouve que Aurélia a beaucoup moins de personnalité, de force que son frère. Et quand c'est son frère qui joue dans les décors de la mer, ça peut être très fort. Là, c'est pas un spectacle très fort. Non, vraiment pas.
Bells and Spells, c'est donc signé Victoria Thierry Chaplin et c'est au théâtre de l'Atelier. Allez, le moment est venu des conseils et on va commencer avec Fabienne.
Alors moi j'ai deux choses à vous proposer très vite. La légende de Bornéo pour ne pas quitter le théâtre de l'Atelier qui est un spectacle fait par le collectif L'Avantage du Doute qui est une réflexion, divagation autour du monde du travail. C'est très drôle, très tonique et très toxique à la fois. Et puis Onigine au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, c'est une mise en scène de Jean Bellorini avec une traduction nouvelle d'André Markovitch. Et là, l'intérêt, c'est qu'on suit le texte qui est à peine joué, qui est dit par des acteurs, et qu'on suit le texte avec des écouteurs sur les oreilles. Tout Pushkin vous rentre dans la tête, et c'est une expérience magnifique.
Le conseil d'Armel.
L'Équation, au théâtre de la Reine Blanche. Et donc, L'Équation, c'est un spectacle qui peut paraître comme ça, empoulé dans son projet, du Big Bang à nos jours. Et c'est un comédien et écrivain italien, mais qui vit en France, Fabio Alessandrini, qui nous promène. Il est seul en scène. Il a juste un écran avec un tout petit peu de vidéo, mais c'est pas écrasant. Et il se balade à la fois dans la littérature. Ça commence par Kafka. Et puis, chez les grands savants, on va chez Michel Cassé, chez Einstein, chez plein de monde. Et il raconte l'histoire, c'est sous-titré « Les rêveries d'un atome solitaire ». Et c'est vraiment délicieux, drôle, et ça peut s'adresser très bien aux adolescents.
Le conseil de Jacques.
Eh bien, nous n'avons pas parlé parce que ça tombait mal entre deux masques de Qui a tué mon père, le spectacle tiré d'Édouard Louis, mis en scène et joué par Stanislas Nordet. Je recommande aux Strasbourgeois en mai de s'y précipiter parce que c'est absolument magnifique.
Le conseil pour finir de Vincent.
Au théâtre du Lucernaire à 19h, Les carnets d'Albert Camus. Camus écrivait ses romans, ses essais dans les journaux, etc., mais aussi remplissait ses carnets. C'est la vision d'un Camus pas forcément très connu, un Camus assez malheureux en France, un Camus assez dépressif.
Mais c'est une lecture ou c'est un...
Il joue, c'est Stéphane-Olivier Bisson qui joue avec de la musique qui l'accompagne, avec des photos qui sont projetées de temps en temps de façon très délicate, avec l'Algérie solaire et puis une Paris pluvieuse, qui dit un peu son état d'esprit, sa rage d'avoir été viré d'Algérie, sa difficulté d'aimer, l'amour qu'il porte à sa mère, énormément de choses que certainement beaucoup de spectateurs comme moi découvriront en allant voir ce personnage qui était Camus. C'est assez passionnant, ça a été fait d'ailleurs avec Catherine Camus, en accord avec elle, Les carnets d'Albert Camus au Lucernaire.
Eh bien, tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Fabienne Pascaud, Armel Hélio, Vincent Josse, et Jacques Nerson pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir, au théâtre de l'Alliance française à la technique, il y avait, et je les remercie, Frédéric Changenet, Julien Bourdet ainsi que Nadège Antonini. La réalisation, mise en scène, mise en son, tout ce que vous voulez, c'est signé Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu ici même, au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, et ce sera le jeudi 18 avril. Pour deux émissions, je vous attends nombreux d'ailleurs, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.